Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette journée d'études consacrée, cette rencontre consacrée à l'histoire de la scène punk à Rennes. Alors, ça fait partie d'un projet de recherche sur lequel on reviendra dans quelques instants avec Solveig. J'en profite juste pour dire qu'on est très heureux d'être accueillis pour cette journée d'études à Rennes dans le cadre des transmusicales de Rennes. Donc Béatrice Massé dira un petit mot tout à l'heure. Et je remercie également Thierry Terret, recteur de l'Académie de Rennes, de bien vouloir ouvrir cette journée importante pour nous et évidemment dans cette ville de Rennes qui est marquée depuis très longtemps par la culture punk et les problèmes de la culture sont fondamentales. Voilà, donc on va tout de suite ouvrir avec quelques mots de la part du recteur, monsieur Thierry Terret, et puis quelques mots aussi de la part de Béatrice Massé, représentant les transmusicales de Rennes. Et puis ensuite, nous enchaînerons sur un petit peu les problématiques de recherche et autour de cette rencontre. Voilà, Thierry.
Merci beaucoup, madame la présidente des trans, cher Luc, cher Solveig. Mesdames et messieurs, c'est évidemment un plaisir d'ouvrir quelque chose qui ne relève pas des traditions dans lesquelles je m'inscris d'habitude. On est apparemment éloigné des problématiques éducatives, encore que j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est un plaisir d'abord par les personnes qui sont responsables de cette action que je connais par ailleurs. Donc c'est un plaisir de les retrouver. C'est un plaisir aussi de se retrouver dans ce lieu. Puisque nous avons l'Institut franco-américain à côté, un institut que je traverse régulièrement pour diverses raisons. Et donc c'est un espace que je connais bien. C'est également un projet qui est lié à une ANR et avec Luc Robben, c'est un espace institutionnel que nous avons aussi travaillé, côtoyé, traversé il y a quelques années. C'est donc avec une pointe de nostalgie que j'ai accepté et bien volontiers d'ouvrir ce séminaire, cette journée d'études sur une thématique qui m'intéresse parce qu'elle est pluridisciplinaire, mais pas au sens scientifique, enfin, au sens scientifique aussi, mais elle permet à la fois à la recherche et à la société d'une certaine manière de se côtoyer, de s'enrichir, de se nourrir, d'avoir des relations fécondes qui ne sont pas dissymétriques. Et où l'apport des uns et l'apport des autres se nourrit de façon bilatérale. Et puis nous sommes à Rennes. Rennes, Luc le rappelait, c'est une ville singulière. C'est une ville où la problématique musicale, madame la présidente, est très forte, elle est historique. C'est une ville aussi qui est connue pour ses problématiques de la marginalité. La communauté punk en est une des expressions. Il en est d'autres et à ses multiples titres. Je suis très, très heureux d'être là. Alors, le mouvement punk lui-même, qui renvoie pas seulement à sa culture musicale ou à sa contre-culture musicale, mais aussi à ce qui la constitue en tant qu'ensemble d'individus, pose des questions. Elle pose des questions aux chercheurs, elle pose des questions aux décideurs politiques, à l'action publique, parce que c'est un phénomène, et vous êtes très bien placé pour le savoir, qui est extrêmement difficile à cerner, à analyser, à comprendre, d'autant que depuis son émergence, en tout cas en France dans les années 70, on observe de fait un glissement de ce mouvement, un glissement qui touche un peu tout, et d'abord l'identité même des personnes qui le composent. Les quelques travaux que j'ai pu parcourir en vue de cette présentation montrent à l'évidence d'abord un glissement générationnel, vers sans doute un peu plus de jeunes et de jeunes femmes, en même temps que les premiers punks sont eux-mêmes devenus d'une autre génération, puisque quand ils avaient 20 ou 25 ans dans les années 70, ils regardent aujourd'hui cette histoire avec le poids de l'âge. Et puis, pour le sociologue ou l'anthropologue, force est de constater aussi qu'avec ce glissement générationnel, les codes vestimentaires, les artefacts, les coiffures, les bijoux, les codes corporels, piercing et autres, se sont modifiés. La place du tatouage, enfin, tout un tas d'éléments ne sont plus exactement les mêmes. Les entretiens qui ont été réalisés dans plusieurs travaux, montrent aussi la transformation assez radicale des projets de vie avec ce qui constituait une sorte d'horizon utopique pour beaucoup au début des années 80. Sa transformation en quelque chose qui relève plus de l'immédiateté aujourd'hui. Des travaux d'anthropologie du mouvement punk ont également montré qu'on a basculé de la mobilité, qui était un mode de vie, à ce qui relève davantage de l'errance. Et l'errance, elle peut être très localisée, finalement, dans un espace urbain. Et à Rennes, on sait que c'est ce qui permet d'expliquer la circulation des acteurs sociaux, des punks, dans un périmètre qui finalement est assez bien banalisé, même si ici et là il peut y avoir géographiquement des déplacements plus longs, par exemple vers Notre-Dame-des-Landes de temps en temps. D'autres travaux ont montré que ce qui pouvait constituer une forme de communauté avec ses solidarités spécifiques a tendance à se dissoudre aujourd'hui vers un registre qui relève davantage de l'individualisme, comme si les grandes tendances de la société se retrouvaient aussi dans le microcosme punk. Que devient alors, et c'est une question qu'on peut se poser face à ces mutations, que devient alors la contre-culture des origines, en particulier la contre-culture musicale ? Nous verrons par exemple ces jours-ci si les punks rennais se reconnaissent dans les trans musicales. Il y a néanmoins, au-delà de ces glissements, des choses qui demeurent. Le punk s'autodéfinit et est souvent désigné aussi comme celui ou celle qui est en rejet du futur, de la société, de l'autre. Il y a largement du stéréotype et de la caricature là-dedans. Il y a aussi des comportements qui traversent le temps, ne serait-ce que dans l'usage de la drogue, le rapport à la violence, l'usage de l'alcool également. Dans ce registre, le corps rennais présente sans doute quelques spécificités. D'abord parce qu'il y a une histoire ancienne, je le disais tout à l'heure, une histoire qui est liée sans doute dès le Moyen-Âge au fait que Rennes était une ville franche et qui a développé historiquement un rapport à la liberté, à l'autre, à la loi, qui n'est pas exactement ce qu'on peut retrouver ailleurs, un rapport à la tolérance aussi, qui fait qu'encore aujourd'hui, il y a, du point de vue de l'action publique, souvent des tensions entre la logique de la contrainte, voire de la sanction, et puis la logique de l'accueil, de la bienveillance, de la réception, de l'empathie, de la compréhension. Et c'est assez intéressant, enfin, ça serait intéressant de travailler sur ces équilibres. Toujours est-il que le mouvement punk s'implante très tôt à Rennes, au regard d'autres villes de cette taille. Les recensements d'il y a quelques années indiquaient qu'à Rennes, c'est autour de 250 à 300 personnes qui peuvent s'auto-désigner comme punk. C'est sans doute sous-estimé. Mais... Et puis, au regard d'autres villes, Rennes est connue pour ce qu'on appelle les punks à chiens. Et n'importe qui traverse les principaux espaces du centre-ville, place Hoche ou autre, se rend compte de cette réalité. Il y a beaucoup de chiens. Et c'est intéressant, d'ailleurs ça a été travaillé aussi dans certains travaux d'anthropologie du mouvement, qui montrent que la présence du chien aux côtés des punks à Rennes joue à la fois un rôle de relais entre les gens, entre les punks, et entre les non-punks, entre les autres. C'est une façon de faire du lien, l'animal fait du lien entre les humains. Et puis aussi, il y a des raisons beaucoup plus prosaïques. Le chien, c'est un moyen de se défendre dans un temps, un espace où la violence est quasi quotidienne. Et c'est aussi une forme de garantie contre la police, parce que c'est beaucoup plus compliqué pour les forces de l'ordre d'embarquer quelqu'un qui a un animal. On le sait. Donc voilà, il y a des raisons particulières, mais Rennes est connue pour ces punks à chiens. Il y a des hauts lieux. Pour cela, à Rennes, j'évoquais la place Hoche, il en est d'autres. Alors, il se trouve que j'ai la chance d'avoir une résidence en tant que recteur qui plonge sur le SAMU social, enfin, dont les fenêtres plongent sur le SAMU social, alors, avec la facilité de regarder par la fenêtre. Il m'arrive de regarder les déplacements, les arrivées, les départs, de guetter les discussions qui se déroulent juste en dessous de mes fenêtres, sans en faire évidemment un objet de recherche. Il y a aussi des typologies qui existent. Et dans le service de prévention de l'Ille-et-Vilaine, l'association Le Relais, par exemple, identifie pour Rennes trois types de marginaux. Alors, même si le terme de punk n'est pas utilisé, en distinguant dans cette typologie les routards, les errants mobiles et les jeunes institutionnalisés. Ce qui montre qu'il y a une sociologie à faire pour distinguer sans doute des acteurs qui sont extrêmement différents les uns des autres. Quelle action publique alors à Rennes ? Je parlais de cette tension, ce qui explique à la fois des actions qui relèvent de la marginalisation et d'autres de l'accueil. Dans ce que la ville de Rennes appelle sa politique de tranquillité publique, des chartes ont été signées, une charte de la vie nocturne par exemple en 2009, et puis plus récemment en 2015, une charte de sécurité et de prévention de la délinquance. Alors ça passe aussi bien par des actions de prévention, type le relais que j'évoquais, que des actions de mise à l'écart qui jouent sur les mécanismes de rupture de la contre-culture. Je m'explique et je terminerai par là, avec deux exemples. Je vous disais que les punks à chiens sont l'une des caractéristiques du mouvement punk à Rennes. Eh bien, depuis 2009-2010, de façon récurrente, les chiens sont embarqués et emmenés à la fourrière. Avec l'idée, au-delà du souci de tranquillité publique, de pousser les femmes, les hommes, à qui ces chiens appartiennent, à quitter leur lieu de vie. Et puis un autre exemple, et c'est là que nous revenons à la musique, qui est celui utilisé dans la gare de Rennes, avec le parti pris de mettre de la musique classique extrêmement fort, avec cette idée assez intéressante que les punks et les marginaux ne pourront pas rester dans un environnement sonore de ce type-là, trop en rupture avec leurs habitudes, leur culture musicale ou leur contre-culture musicale. Voilà pourquoi, dans la gare de Rennes, Mozart est extrêmement présent. Bon, je crois qu'aujourd'hui, la stratégie est un peu différente, puis la gare est en travaux, mais il y a 2 ans encore, Mozart avait envahi l'espace sonore de la gare avec l'intention que le choc musical soit tellement fort qu'il pousse ceux qui étaient les plus porteurs d'une contre-culture musicale à délaisser cet espace. Ce qui renvoie aussi en partie à vos préoccupations. Voilà quelques idées pour lancer vos travaux. En tant que recteur, je m'intéresse néanmoins au rôle de l'école dans cette affaire. L'école doit-elle enseigner seulement la culture ? Ou doit-elle élargir son rôle à l'apprentissage des contre-cultures, à l'enseignement des marges ? Si l'on suit Edgar Morin quand il affirme que le paradoxe de l'enseignant est de devoir fabriquer des autodidactes qui doivent le nier, alors souhaitons que les travaux que vous menez nourriront un jour les programmes scolaires afin qu'ils aident notre jeunesse non pas à s'engager résolument dans ces marges, dans la marginalité musicale ou dans les écarts de tous ordres, mais simplement à ouvrir les yeux sur les normes de notre société. Et Luc Robène me disait tout à l'heure en aparté que des gens qui étaient au cœur de la culture punk dans les années 70 se trouvent aujourd'hui à des postes de haute responsabilité. Et sans doute leur action aujourd'hui dans ces postes ne serait pas ce qu'elle aurait pu être s'ils n'avaient pas vécu cette culture il y a quelques années. Voilà, très bon travail à vous.